BW. Droits et libertés.
Cette semaine, nous parlons de l'Organisation internationale du travail qui célèbre son centenaire cette année. Pour en parler avec nous, un invité, Peter Van Rooy. Il est directeur adjoint du département Afrique au sein de l'OIT. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour à tous. Peter Van Rooy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur adjoint du département Afrique au sein de l'Organisation internationale du travail. Bonjour.
Bonjour.
Alors, l'Organisation internationale du travail a son siège en Suisse, à Genève. Elle a été créée en 1919, c'est-à-dire au sortir de la Première Guerre mondiale. Pourquoi faire ?
Ce qu'on voudrait assurer pour qu'il n'y a pas une deuxième guerre mondiale, c'est pour assurer une justice sociale. Et donc, pour avoir une justice sociale, il faut avoir un cadre mondial qui touche toutes les dimensions de la vie, si vous voulez. Et donc, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, est la dimension qui concerne le travail, qui travaille avec les gouvernements et en même temps des représentants des organisations syndicales et des organisations employeurs pour travailler bien ensemble.
Et je crois qu'au siège, il y a trois clés qui symbolisent ces trois piliers, gouvernement, employeur et travailleur, trois clés qui peuvent seulement, si elles tournent ensemble dans le même sens, ouvrir le portail de l'OIT. C'est le symbole, c'est ça?
Exactement. Après notre début et jusqu'à maintenant, avec tous les États membres, actuellement 187 pays, et des représentants des organisations syndicales et des employeurs de tous les États membres, on a élaboré par le temps 189 conventions sur différentes dimensions de travail et 250 recommandations. Donc, si vous voulez, ce sont des normes internationales pour assurer un socle pour renforcer ce qu'on appelle le travail décent pour tout le monde, partout dans le monde, y compris en Afrique, ici.
Alors, sur le site internet de l'OIT, à l'occasion du centenaire, il y a une animation, un dossier assez complet sur justement les mandats, les tâches, les missions assignées à l'OIT, avec beaucoup aussi de témoignages de personnes de différents pays qui sont dans des situations aussi très très diverses. Il y a notamment celui d'un homme sourd qui a travaillé en tant qu'enfant ou une femme qui était travailleuse domestique en Arabie Saoudite. Il y a aussi des chômeurs, il y a aussi des retraités. Ça veut dire que le travail décent, en fait, ça concerne vraiment tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas du travail ou ceux qui n'en ont plus.
Exactement. Ce n'est pas juste pour ceux qui travaillent, mais aussi pour ceux qui ne travaillent pas et qui voudraient bien travailler. Notre agenda de travail décent a en fait quatre piliers. Donc le premier, c'est le pilier des normes, un cadre juridique à promouvoir, à soutenir et à suivre. Le deuxième pilier, c'est la création d'emplois. Mais le troisième pilier, c'est la protection sociale. Et là où il y a plus de protection sociale, là on voit plus d'appui pour ceux qui sont sans travail et en même temps pour voir comment on puisse investir à eux pour reprendre un travail.
Ça peut être aussi après des accidents de travail, par exemple, ou des gens qui sont dans l'incapacité de continuer à travailler ou qui sont à la recherche d'un emploi. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose de très, très vaste parce que l'idée, c'est à la fois de protéger les travailleurs ou ceux qui aimeraient le devenir, mais aussi leur famille, leurs proches.
Mm-hmm. Exactement. Et le quatrième pilier, c'est le dialogue social. Donc, c'est comment on travaille ensemble les employeurs et les travailleurs dans un cadre qui est facilité et qui est appuyé par des gouvernements de différents États membres pour justement réaliser le travail décent pour tout le monde. Ça nous concerne tous.
Et l'OIT, dans ce domaine-là, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait très concrètement? Ça veut dire qu'elle organise des réunions avec des représentants de ces différents secteurs de la société. Elle fait aussi des évaluations pour voir si les règles sont respectées?
Oui. Notre organisation fait tout d'abord une conférence internationale avec tous les non-membres. C'est très important pour travailler avec ça sur différents thèmes techniques aussi. Si ça concerne la sécurité au travail ou contre le travail des enfants, ou promouvoir les petites et moyennes entreprises, toutes les dimensions de travail des gens.
Et alors, vous, département Afrique, vous êtes une agence de l'ONU, mais vous travaillez aussi avec l'Union africaine en Afrique.
Tout à fait. Ça, c'est un bon exemple d'avoir un partenariat, de travailler ensemble. Nous avons un bureau régional pour l'Afrique, pour lequel je travaille. Donc ça, c'est une autre dimension de capturer les bonnes pratiques de la région, de les partager, pas juste à l'intérieur, mais aussi avec les autres continents. Et en même temps, donc, soutenir des initiatives des autres organisations.
Vous avez 8 bureaux, je crois, sur l'ensemble du continent africain. Et sur votre site internet, dans la présentation, il y a 7 axes de travail qui sont définis. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, l'emploi des jeunes, la protection sociale, le travail des enfants pour œuvrer vers son abolition, les normes du travail, mais aussi le VIH-SIDA, par exemple. Qu'est-ce que ça a à voir avec le travail, ça, le VIH-SIDA ?
C'est important d'assurer que les personnes avec le VIH-SIDA sont aidées. Et en même temps, et l'endroit du travail, c'est un endroit très, très fort pour aussi communiquer les messages, comment prévenir et comment traiter pour prévenir
et lutter contre les discriminations.
Pour les aider.
Et il y a aussi...
Exactement. Exactement.
Des discriminations donc vis-à-vis des malades, mais ça peut être aussi vis-à-vis des handicapés, de minorités, des femmes.
Oui.
C'est un lieu de sociabilisation aussi très, très fort. Vous travaillez aussi sur les emplois verts, donc à créer des nouveaux emplois qui soient en accord avec les engagements pour la protection du climat, notamment les énergies renouvelables sur le continent. Et un de vos points forts aussi, c'est la migration de main-d'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce chapitre-là ?
La bonne nouvelle, c'est qu'avec ces changements climatiques, il y a aussi des possibilités de créer des nouvelles postes dans des nouvelles industries, des nouveaux types de travail.
Et vous travaillez aussi, par exemple, avec le G5 Sahel pour aider à éliminer la pauvreté dans la zone sahélienne et ainsi aider aussi à la lutte contre la radicalisation ou le terrorisme. Comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce domaine ?
En fait, le Sahel, c'est une priorité pour nous, car si on regarde globalement, il y a un défi pour le travail des jeunes, y compris la qualité, la dimension décente. Si on voit avec les changements climatiques, mais aussi la migration, pour que la migration, ce n'est pas une chose qui n'est pas bien gérée ou on n'a pas d'alternative, la migration, mais il faut assurer que la migration, ce n'est pas la seule option et que c'est bien géré. Et donc, pour nous, de travailler ensemble avec les pays de Sahel, avec nos collègues de l'ONU et autres, ça a beaucoup de sens pour justement assurer qu'il y a un travail pour les jeunes et les possibilités avec les changements climatiques que ces potentiels sont réalisés et que l'immigration, c'est pas qu'il n'y a pas d'alternatives et que c'est bien géré.
Travailler ensemble, d'accord, avec les États, avec les employeurs qui prennent des engagements, qui ratifient des conventions. Qu'est-ce que vous faites s'ils ne les respectent pas, ces engagements ?
Nous avons un système suivi. Donc, tout d'abord, c'est la promotion d'une ratification. Et la ratification, ce n'est pas une signature, c'est une conversion des principes aussi au niveau national dans les lois.
Mais est-ce que vous pouvez vous saisir de la justice, par exemple, pour punir des contrevenants ?
Nous ne pouvons pas punir en tant que tel. Et punir, ce n'est pas la solution en tant que tel non plus. Ce qui est important, c'est d'assurer que les principes sur lesquels on est d'accord, comment on puisse les convertir à une réalité. Nous sommes une organisation des États membres, y compris des partenaires sociaux. Donc, c'est ensemble qu'on a convaincu. Et des fois, c'est un pas en avant et un demi-pas en arrière. Mais si on regarde les derniers 100 ans, on voit dans le monde qu'il y a un progrès substantiel dans dans toutes les dimensions de travail décent.
Comment est-ce que l'OIT peut défendre aussi les droits des travailleurs ou ne serait-ce que définir des normes pour protéger les travailleurs dans le secteur informel qui est très présent en Afrique? Parce que là, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas forcément d'employeur en tant que tel. Les États ont du mal à contrôler ce secteur aussi. Comment vous faites?
C'est vrai que ces transitions prennent du temps. Et en même temps, c'est important de voir comment on puisse aider avec cette transition de l'économie informelle au formel. Donc, le défi est là et en même temps, on voit différentes pistes et on voit aussi progrès dans différents pays avec cette transition qui va encore prendre du temps, mais sur laquelle on peut et il faut travailler ensemble.
Peter Van Rooy, directeur adjoint du département Afrique au sein de l'OIT, merci à vous et puis bon anniversaire alors.
Merci Sandrine Blanchard et les écouteurs en Afrique.
C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. Merci aussi à Peter Van Rooy de l'OIT. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.